Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous recevons Chantal Lavallée, qui est professeure adjointe en études internationales et directrice adjointe du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise critique au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle est aussi Senior Researcher au Peace Research Institute d'Oslo, PRIO, où elle participe au projet de recherche régulière The Integration of Drones in the Norwegian and European Airspaces, dirigé par Bruno Oliveira Martins et financé par le Research Council of Norway. Elle détient un doctorat en sciences politiques de l'UQAM. Elle a été récipiendaire d'une bourse postdoctorale Marie Curie de l'Union européenne pour réaliser le projet de recherche The European Commission in the Drone Community, a New Cooperation Area in the Making à l'Institute for European Studies de l'Université libre de Bruxelles. Elle a aussi réalisé une recherche postdoctorale au European University Institute à Florence avec le soutien du Fonds de recherche du Québec Société et Culture ainsi qu'à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire IRSEM à Paris grâce à une bourse du ministère français de la Défense. Elle est chercheure associée à l'IRSEM, au Centre Jean Monnet de Montréal, au GRIP de Bruxelles et au Think Tank au Saint-Paul de Paris. Ses recherches et ses publications portent sur la contribution de la Commission européenne au secteur de la sécurité et de la défense, ainsi que des technologies émergentes. L'ouvrage « Emerging Security Technologies and EU Governance » qu'elle a co-dirigé avec Raluca Cernatoni et Antonio Calcara est paru chez Routledge Studies in Conflict Technology and Security Series en 2020. Bon, merci beaucoup d'être avec nous, Chantal, aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et comment ton intérêt pour la technologie des drones s'est développé?
Oui, ben d'abord, merci de l'invitation à vous deux. Je suis très heureuse de faire partie de cette belle initiative que vous avez au réseau d'analyse stratégique avec ce balado. Et merci pour la belle présentation. Désolée pour les défis, effectivement, de tous ces acronymes. C'est une belle occasion, effectivement, de parler de mes intérêts de recherche, mon cheminement intellectuel, donc pour en venir à ces drones, ces technologies émergentes qui deviennent assez importantes maintenant dans mes recherches. Tout est parti, en fait, c'est souvent, j'imagine, comme ça aussi, d'une étape à l'autre. Dans le cadre de mon doctorat, je m'étais particulièrement intéressée au rôle de la Commission européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense. Une autre façon de dire comment la Commission européenne, qui a priori n'a pas de compétences reconnues dans les traités sur des secteurs de pointe, surtout les questions de défense, arrivait déjà à l'époque à proposer des initiatives, à essayer de faire bouger les choses pour une défense européenne. Et j'ai poursuivi sur cette lancée-là dans mes différents postdoctorats qui se sont multipliés effectivement sur comment la Commission européenne pousse l'intégration européenne donc dans ces nouveaux secteurs. Et en utilisant toujours ses compétences, évidemment, donc le marché intérieur, la recherche, l'innovation, il y avait un volet qui m'intéressait particulièrement, qui était la recherche. La Commission européenne a réussi, et à l'officialiser en 2007, à inclure la sécurité dans le programme de recherche d'innovation de l'Union européenne. Sécurité civile, mais on sait que la sécurité est souvent duale. Et dans ces différents projets, il y avait ce qui m'avait intéressé, la question des drones. Entre autres, c'est des consortiums quand on est dans le cadre des projets européens. Puis, il y avait entre autres la participation d'Israël, qui est un pays qui produit évidemment les drones, qui est stratégique. Et puis, en fait, bref, plein d'éléments qui avaient attiré mon attention et qui finalement avait alimenté ma réflexion quand est venu le temps de faire un projet de recherche et de soumettre pour une des bourses que je souhaitais depuis des années, qui est celle de la bourse de recherche Marie Curie de l'Union européenne. Et donc, je suis arrivée avec ce projet de voir toujours du point de vue de la Commission européenne, comment la Commission européenne finalement, oui, à travers la recherche, mais déjà à partir de 2010, voulu finalement tenter le terrain en bon québécois pour voir en fait quel était l'intérêt, les besoins pour pousser l'industrie des drones, mais plus que ça pour éventuellement permettre un usage sécuritaire, évidemment, donc l'intégration des drones dans l'espace aérien. Donc ça avait été le point de départ pour mon projet. Quelques mots sur le projet, donc ma bourse Marie Curie 2017 à 2019, je suis à Bruxelles, donc dans le feu de l'action parce que c'est une période où s'élabore le nouveau cadre réglementaire qui va être l'assise pour une politique européenne pour les drones. Et c'est ce qui m'intéressait, de voir comment la Commission européenne donne l'impulsion, mais aussi sollicite les différents experts, l'industrie, mais la société en général aussi. Bon, même si la société civile, on pourrait revenir, mais en fait, essayer de voir toutes les parties prenantes et quel est l'intérêt, les besoins, quelles sont les modalités et comment la réglementation européenne qui est déjà là pour la sécurité de l'aviation civile doit être adaptée à l'arrivée de ces véhicules non habités, donc ces drones, dans un espace aérien partagé. Donc ça, c'était mon projet de recherche qui se poursuit parce que j'ai encore des publications en cours, là, disons que j'avais amassé les données. Comment j'en arrive à finalement garder ce cadre de recherche, c'est que j'ai trouvé un monde fascinant. D'une part, moi, c'est ma spécialisation demeure l'Union européenne, donc c'est intéressant de voir comment l'Union européenne s'adapte à ce domaine de pointe, surtout qu'on sait que la compétition par rapport à la Chine, les États-Unis, dans les technologies, on parle toujours du retard de l'Union européenne. Donc, je me suis intéressée de voir un peu comment se positionnait l'Union européenne. Mais au-delà de tout ça, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai passé à plein d'événements pendant mon séjour en Europe et c'est un domaine qui est fascinant, déjà comme chercheuse, mais comme citoyenne de ce monde, c'est un peu notre rapport à une réalité proche du futur, à des technologies qui risquent d'avoir un impact dans nos vies. Donc, il y avait plusieurs aspects qui m'intéressaient. Puis pour conclure sur cette question-là, déjà en 2015, des économistes arrivaient avec The Drone Age, puis il y avait toute une série de littérature qui sortait au-delà de la dimension du drone civil dont on a beaucoup parlé avec l'usage des drones par les Américains dans les zones de guerre, avec tout le débat éthique, légal, extraterritorial que ça soulevait, tout le volet civil qui était en plein essor, et on parlait justement de ces visions du monde. Donc, il y a aussi l'aspect, et je peux y revenir un peu plus tard, là, mais sociétal, l'impact sur nous comme société qui m'a intéressé beaucoup. Donc, j'y trouvais à la fois mon expertise sur l'Union européenne, puis tout un nouveau volet, plein de questions qui sont soulevées par l'essor des technologies émergentes, qui sont émergentes dans la mesure où elles continuent leur développement, mais elles ne sont pas en soi nouvelles, si on pense à l'intelligence artificielle, aux drones et à la robotique. Donc, c'est un peu ce qui est le point de départ là, de mon arrivée dans ce domaine de pointe.
Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup d'être avec nous en passant. Chantal et moi, on a fait notre maîtrise ensemble à Laval il y a 20 ans à peu près. Alors, c'est le fun de te revoir comme ça. Alors, pour la prochaine question, tu as une recherche qui est financée par le Conseil de recherche de la Norvège qui porte sur la place des drones dans l'évolution de la sécurité. Entre autres, dans le contexte de ce projet-là, tu poses la question, dans quelle mesure l'intégration des drones transforme l'imagination socio-technique? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet de recherche-là?
Oui, avec plaisir. C'est un beau projet qui est arrivé dans ma vie exactement au bon moment avec des collègues avec qui je travaillais déjà, dont Bruno Oliveira Martins, qui est donc en charge de, qui est le coordinateur de ce projet-là, chercheur aussi au PRIO, mais également avec mes collègues Christine Senvik, professeure à l'Université d'Oslo, et Arthur Hollande-Michel. Donc, on a une belle équipe. Et le projet, donc, me permet de poursuivre exactement où j'avais laissé avec ma bourse Marie Curie, donc sur la mise en place d'un cadre européen pour les drones. Maintenant, c'est de voir sa mise en œuvre, son impact. Et ça inclut également la Norvège, qui n'est pas un membre de l'Union européenne, mais qui est un pays partenaire et qui fait partie de beaucoup de politiques de l'Union européenne, qu'une collaboration très étroite. Et donc, le projet a plusieurs visées, mais principalement, c'est de prendre en compte un fait qui est l'intégration éventuelle ou actuelle en cours, mais qui prend quand même un certain délai. Donc, on peut dire à venir rapidement des drones dans l'espace aérien. Mais surtout, c'est une réalité où on voit une prolifération des drones pour plein de raisons. On parle des drones civils ici, évidemment. Les drones sont de plus en plus accessibles, sont abordables. Ils sont aussi de différentes tailles pour plein d'utilisateurs. Donc, autant les hobbyistes, les particuliers que les entreprises, qu'un usage professionnel aussi. Donc, ça, c'était l'intérêt du projet. Et l'intérêt, c'est d'une part, oui, de voir de quoi on parle, donc la technologie, ses usages, ses utilisateurs, mais aussi, en fait, de voir l'impact de ces technologies sur l'imaginaire collectif, sur ce qu'on parle peut-être dans un premier temps. Je peux dire quelques mots sur son impact sociétal. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire l'impact sociétal? C'est en fait, il faut s'imaginer, si on regarde à l'extérieur, on a encore la chance de voir, et surtout pendant la pandémie, un ciel encore plus vide que jamais, donc un beau ciel bleu idéalement, mais complètement dégagé. Et ce qui nous... qui nous est annoncé, c'est éventuellement un ciel où on verra de plus en plus, évidemment, de véhicules, de drones, de différentes formes pour différents usages, probablement se promener dans ce ciel, dans cet espace aérien. Et donc, bien évidemment, il y a l'impact de dire, OK, déjà au niveau visuel, l'aspect sonore, je veux dire trop de choses en même temps, j'essaie de bien tenir le temps et de ne pas trop parler, mais de dire quand même assez pour donner un sens à tout ça. Mais donc, il y a évidemment de préparer le public, monsieur, madame, tout le monde, à l'arrivée de ces drones, aux usagers qui risquent d'être plus favorables, mais peut-être aux non-utilisateurs de drones, et donc de les préparer parce qu'il y a évidemment plusieurs enjeux qui sont soulevés au niveau éthique, légaux, au niveau de la sûreté, de la sécurité. Rapidement, quelques enjeux, on peut penser évidemment à la sécurité, à la vie privée, au risque peut-être d'une potentielle forme de surveillance ou en tout cas aux données personnelles à protéger. Je parlais déjà de l'impact sonore. Donc, évidemment, ces nouvelles technologies sont vues avec un potentiel assez clairement intrusif. En fait, il y a le potentiel qui est là d'être intrusif, pardon. Mais aussi, on parle de disruptive en anglais, donc il y a un effet perturbateur, donc aussi de préparer à ce qui peut être un peu cette vision du futur qui se rapproche de nous quand même. Parce que si je peux mentionner au passage déjà, mais au sein de l'Union européenne, ce qu'on est en train de mettre en place, et on l'a personnalisé, on l'a européanisé, on parle de l'U-Space pour Unmanned Air Traffic Management, et c'est de préparer un espace en fait automatisé, mais où en fait on va s'assurer que tous ces drones professionnels, évidemment on parle d'un contexte urbain, donc a priori les drones pour usage personnel vont être à garder en dehors de ces zones, mais un usage de différents utilisateurs. Oui. Pour assurer évidemment éviter le risque de collision, mais de s'assurer la coordination. Et bref, tout ça s'en vient, donc la réglementation européenne a été adoptée et doit être mise en œuvre à partir de 2023. Donc, on est déjà à préparer ces nouveaux écosystèmes, différents acteurs utilisant différentes formes de drones. Et donc, toujours sur les impacts sociétaux, c'est ce qui s'en vient. Et il faut savoir qu'à ce jour, il y a eu en fait très peu de focus group, de groupes cibles, ce que veut faire Régulard d'ailleurs éventuellement. Mais ce qui a déjà été fait par des collègues à moi d'ailleurs qui ont pu faire ces groupes cibles. En fait, ce qui ressortait, c'est cette crainte-là. Donc, peut-être un attrait pour la nouvelle technologie, mais une crainte de voir un ciel complet de choses obscures qui volent au-dessus de nos têtes. Donc ça, évidemment, c'est des impacts à prendre en compte. Que l'Union européenne a déjà essayé de prendre en compte dans la réglementation à mettre en place, mais on sait que tout est perfectible, donc on travaille sur ça. Et pour revenir au projet régulaire, effectivement, on s'est beaucoup intéressé à cet imaginaire sociotechnologique, qui est en fait un livre 2015 qui est devenu une référence de Sheila Jasanoff et de San-Yoon Kim, qui arrive avec ce concept, et c'est un ouvrage dirigé donc sur plusieurs facettes dans différents contextes. Mais c'est un concept qui nous intéressait, qui est fascinant d'ailleurs, parce qu'on parle de cette construction d'un imaginaire autour d'une technologie. Et c'est de voir comment, à travers un cadre d'action ou un cadre politique, parce qu'il faut savoir évidemment que différentes régions peuvent avoir différentes approches en termes de comment on vend aussi ces technologies, puis le rôle que veut l'Union européenne, par exemple, jouer dans ce secteur. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on construit la légitimité pour développer un rôle, comment on crée ces hiérarchies de pouvoir, qui on consulte, quels sont ces experts qui sont consultés, donc tous ces groupes de conseils qui sont mis en place, ces working groups qui sont très populaires, évidemment, aussi au sein de la Commission européenne ou à l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Donc, on met en place des groupes d'experts qui donnent leurs conseils. Donc, comment tout ça se met en place? Et c'est de voir quel est le récit, quelle est la vision du monde qui est transmis à travers ces cadres politiques qui sont mis en place, qui ont un impact donc sur les pratiques, les processus politiques. Donc, ça, on est sur le cadre un peu plus théorique qui est développé dans Science and Technology Studies, qui est un cadre de littérature qui est en plein essor, qui est extrêmement intéressant, très riche en termes de concepts, dont celui-là qui est à la base de notre réflexion et donc qui va alimenter notre réflexion. Donc, d'une part, l'imaginaire qui est créé directement par la technologie en soi, mais aussi comment elle est construite par les politiques derrière. Donc, on s'intéressait dans mon cas déjà avec l'Union européenne, comment, en cadre de ce politique, comment on justifie le rôle de la Commission européenne et de l'Union européenne, sachant que les États, et pas tous les États, étaient déjà engagés dans un processus réglementaire, dans un processus actif de créer ces écosystèmes où il y a des acteurs publics-privés qui doivent se coordonner, évidemment, autant l'industrie, parce qu'on doit définir des normes pour permettre à ces drones toujours de voler dans l'espace aérien. Et dans la fabrication, on a besoin de connaître la réglementation pour être sûr que les drones sont réglementaires. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, mais dans la réglementation européenne, il est prévu qu'il va y avoir le label CE, donc validé, que les drones qui vont voler dans l'espace aérien auront suivi la réglementation évidemment européenne. Donc, dernière chose, peut-être aussi, si on parle de cet imaginaire, donc là, j'étais dans l'aspect très théorique, mais il y a aussi, toujours dans l'aspect théorique, mais aussi pour donner un peu plus d'éléments, puis je vais m'arrêter après, mais donc, il y a un impact important. Donc, c'est pour montrer aussi que notre recherche va au-delà de l'appareil du drone en soi, mais de tout l'imaginaire qui entoure le développement, la vision, le message politique aussi, dans lequel, ou le cadre politique dans lequel s'insère les différentes initiatives qui sont mises en place, mais il y a l'idée qu'avec l'intégration des drones dans l'espace aérien, c'est aussi toute une conceptualisation de l'espace public, de l'espace qui va être transformé. On peut parler il y a toute une littérature sur cette dimension verticale où le citoyen va avoir une nouvelle dimension, il va avoir des choses qui vont voler autour de lui avec des enjeux de différentes natures, dont, et je termine sur ça, ce plus spécifique de la sécurité. Évidemment, on peut penser tout de suite aux usages malveillants des drones avec les attaques terroristes qui se sont multipliées, entre autres, en Europe. Et c'est des scénarios très réalistes qui sont pris en compte pour évaluer les risques potentiels liés à l'usage des drones. On peut penser aussi à des risques accidentels, soit un mauvais fonctionnement du drone, des collisions entre drones, d'où l'importance de l'U-Space et du développement d'un système automatisé. On peut penser juste à des risques d'accident. Un drone qui tombe sur une voiture, c'est une chose. S'il tombe sur une personne, on peut penser donc la portée et ça soulève bien évidemment plusieurs enjeux dont bien, certains que j'allais donner en exemple, mais je peux, pour garder l'interaction, attendre les autres questions puis je rajouterai. Merci.
Je voulais justement revenir à un livre que tu as publié en 2020 sur les technologies émergentes justement en Europe. Puis, en février dernier, tu donnais une conférence intitulée « Les drones dans l'espace aérien européen, un moteur pour la coopération entre civils et militaires ». Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des défis qui se posent pour cette coopération-là entre civils et militaires?
Oui, avec plaisir. Il y a deux aspects dans votre question, puis aussi par rapport au livre puis à cette intervention que j'ai faite. Il y a un article sur lequel que je finalise, que j'espère publier rapidement, comme nous tous d'ailleurs, c'est notre défi. Mais donc, le livre, c'était un projet extrêmement... ça a été une belle expérience avec deux collègues à moi, deux amis, Raluca de Sanatoni, puis Antonio Calcara, avec qui donc j'étais à Bruxelles. On avait cette idée d'arriver à peut-être rebalancer un peu la littérature sans prétention. Ça a l'air très ambitieux puis très prétentieux, mais c'est vrai que sur les technologies émergentes, tout de suite, on pense aux États-Unis et à la Chine. On parle toujours du décalage de l'Union européenne, de son retard, du gap technologique à combler, comment les Européens sont toujours en retard et tout. Alors qu'il y a beaucoup d'initiatives au sein de l'Union européenne, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Puis on s'est dit, ça serait bien d'avoir peut-être un regard plus, pas eurocentré, mais quand même qui essaie de rebalancer si l'Union européenne essaie de faire, où se situe ce décalage, où sont les enjeux. Donc, le livre a réuni plusieurs de nos collègues qui ont des recherches fascinantes de l'intelligence artificielle à la biotechnologie, aux enjeux du cyberespace, aux défis justement de l'industrie de s'adapter aux changements, aux défis technologiques, à la coopération européenne. Donc, plusieurs facettes qui étaient abordées pour justement montrer les enjeux de la gouvernance européenne dans ce secteur, pour montrer que finalement l'Union européenne a mis en place beaucoup d'initiatives pour justement essayer de rattraper, oui, un certain retard. On sait que les investissements sont majeurs, que c'est des technologies qui demandent, c'est ça, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps dans le développement. Et à cet égard, l'Union européenne, sans aller dans le détail, a mis en place plusieurs initiatives qui donnent en fait des cadres de plus en plus précis. Puis pour donner des exemples, bon, moi, la première dans mes recherches avec les drones, c'est de parler de ce cadre politique qui comprend évidemment un cadre réglementaire, développer le marché des drones, mais développer évidemment assurer la recherche et le développement. Et avec ma collègue Raluca Tsernasemi, dans ce livre, on a publié notre chapitre ensemble parce qu'on trouvait qu'il y avait, puis on prépare un article à la suite. Il y a beaucoup de parallèles entre l'intelligence artificielle et les drones en termes de comment l'Union européenne aborde l'approche, comment les experts sont impliqués dans le processus, comment les cadres politiques sont mis en place. Donc, le livre porte principalement sur ça avec des défis pour répondre bien à la question, en fait, qui reste présent parce que c'est des investissements colossaux. Donc, évidemment, ça, on n'est pas surpris, ça demande beaucoup d'investissements, d'où le fait que l'Union européenne devient un cadre propice parce que, comme ça, les États membres en bénéficient, puis il y a une collaboration là, qui s'installe et il y a de plus en plus d'outils, si on parle à la dimension civile-militaire, que le Fonds européen de défense, qui a tout le volet recherche et qui va permettre, et qui permet déjà, il y avait déjà des modèles, des projets initiaux, mais d'autres qui se rajoutent depuis pour tout ce qui est technologie émergente et drones. Pour ce qui est de l'intervention que j'ai faite, donc sur, à proprement parler, l'intégration des drones dans l'espace aérien européen puis cette dimension civile-militaire, c'est vraiment, même quand je suis arrivée à Bruxelles en 2017 avec mon projet, je l'avais déjà en tête, comment on parle d'une technologie qui est duale, qui a été d'abord les drones développés par les militaires pour les militaires, qui est de plus en plus au tournant 2000 intégrée, comme c'est souvent le cas dans la dimension civile, qui connaît un essor important, un boom en fait économique et majeur. On peut l'acheter même, on peut acheter un drone à l'épicerie pratiquement. Et donc, quels sont les impacts de ce projet? Puis mon intérêt, c'est de dire le point de départ, OK, on a l'espace aérien qui est dual, donc on a toujours un usage civil et militaire du ciel et on a une technologie qui est duale. Mon propos porte sur le fait que à la fois la Commission européenne, j'en ai déjà parlé, s'intéresse à l'intégration des drones civils avec un cadre réglementaire, la recherche, le développement et la mise en place d'un marché. Et ce qui m'a intéressé, c'est de joindre l'autre facette, puis ça permet d'avoir une image plus complète au sein de l'Union européenne, c'est que l'Agence européenne de défense, en fait, les militaires ont la même prétention, veulent utiliser les bénéfices aussi là, de ce cadre réglementaire pour les drones civils, pour utiliser le ciel aussi pour voler leurs drones militaires, soit en mode civil, mais pouvoir aussi intégrer les drones militaires dans le ciel européen, parce que pour l'instant, étrangement, le ciel est encore divisé. Donc, si les militaires voulaient déplacer les drones civils à travers l'Europe pour se rendre dans les zones de conflit, ils doivent, en fait, on est dans la zone de transition, obtenir les autorisations des partenaires. Alors que l'idée, c'est d'avoir ce ciel, on parle d'un ciel unique européen déjà, donc d'avoir d'abolir les frontières aussi dans le ciel. Et donc, pour les militaires, ça aurait plusieurs avantages. Donc, il y a cette facette-là. Il y a aussi l'intérêt pour les militaires de voir qu'est-ce que les civils font en Europe, donc qu'est-ce que la Commission européenne est en train de faire pour voir l'impact sur déjà leur utilisation du ciel, mais aussi pour être sûr que, par exemple, il n'y ait pas de risque aux infrastructures critiques des militaires, à leur accès au ciel. On sait que l'espace aérien, le ciel, c'est un continuum, donc ils doivent s'assurer de la sécurité de l'ensemble de leur espace. Donc, c'est des questionnements que je soulève dans l'article, dans une vision bourdieusienne. Donc là, je m'amuse en cadre théorique, mais de voir comment cette communauté de l'aviation traditionnelle doit maintenant gérer l'arrivée de nouveaux types d'utilisateurs qui n'ont pas nécessairement aussi la même sensibilité à la sécurité dans l'espace aérien ou les connaissances. Et il y a plusieurs rapports de force qui s'installent et je vais m'arrêter là, mais donc en gros, c'est les questions que j'abordais, que j'aborde donc dans cet article et dans l'ouvrage.
Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de l'impact de la pandémie, de la COVID, sur l'utilisation de la technologie dont tu nous parles, sur la gouvernance européenne?
Oui, avec plaisir. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, quand la pandémie est arrivée, bon, le choc, étonnement, et après, on se dit tous nos terrains de recherche, notre recherche, c'est où, puis de voir un peu l'impact de tout ça sur notre recherche, donne quand même un sens à cette situation inattendue. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec mes collègues, dont toujours avec Bruno Olivia Martins et notre collègue Andrea, on a décidé donc de se pencher sur la question et de voir déjà, comme tous, peut-être pas comme tout le monde, mais dans notre champ d'intérêt, on s'est rendu rapidement compte d'un usage à travers la planète, un usage de plus en plus important des drones, justement pour faire face aux enjeux de la pandémie, je vais le dire comme ça. Et donc, on a même publié un article sur le sujet parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un usage accru du drone qui permettait, en fait, qui devenait un outil clé parce qu'au moment où il fallait limiter les contacts physiques, on avait justement un appareil qu'on pouvait faire voler qui permettait à la fois de désinfecter des zones publiques, comme ça a été le cas en France, en Espagne, utilisé en Europe, mais dans plein de pays, mais je vais garder le focus Europe, aussi pour diffuser des messages. On a beaucoup parlé de Nice, qui a marqué un peu notre imaginaire sur la promenade des Anglais. Des drones se promenaient pour aviser les gens s'il y avait un couvre-feu ou les mesures de distanciation à respecter. Donc, il y a un usage qui a été fait aussi, pour transporter soit des tests à faire évaluer ou du matériel médical à travers l'Europe. On a parlé beaucoup de tests en Allemagne, mais un peu partout, pour arriver justement à transporter. On le sait que ça se fait dans d'autres contextes, mais avec la pandémie, ça a été un usage accru. Et donc ça nous a intéressé. Dans l'article donc, qu'on a rédigé, on s'est beaucoup intéressé. Puis ça va rester à moyen long terme de vraiment valider, mais... ce qu'on argumente, c'est que finalement, ce qui devait être une exception pour le cadre de la pandémie, risque de se diriger vers une normalisation de l'usage des drones dans le ciel en Europe, parce que pour beaucoup de gens, c'était, même pour ceux qui vont peut-être écouter ce balado-là, ils vont dire « mais de quoi elle parle? Il n'y a toujours pas de drones dans nos villes », mais ça s'en vient, si j'en crois, tous ceux que j'ai rencontrés depuis les 5-6 dernières années, c'est un peu la réalité qui nous guette, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a eu plusieurs avantages. Si on pense, en ce moment au Québec, on parle toujours du transport routier, maritime, des fameux tunnels, le troisième lien, on ne sait plus. Donc, toutes ces congestions routières liées à la pollution, on voit dans l'utilisation du ciel, donc avec ces drones, et c'est parce qu'on peut parler aussi du drone taxi, puis de d'autres plein de choses qui s'en viennent aussi, qui sont imaginées, une façon de décongestionner justement le transport, les voies traditionnelles et autres. Mais là, je suis en train de m'éloigner de la question, donc pour amener de dire que cet usage accru pendant la pandémie avec peut-être des usages un peu inusités, peut-être au risque d'avoir amené une certaine normalisation de l'usage des drones dans certains pays où ils ont été abondamment utilisés, je dois le dire, par des autorités civiles et par des autorités militaires dans certains cas, comme en Italie, en Espagne, ou par la police. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir, puis en revisant mes notes, puis en essayant de voir d'être le plus à jour, je voyais que, par exemple, à Nice, qui avait été l'exemple que j'ai mentionné, qui était un exemple qui avait marqué beaucoup l'imaginaire aussi en Europe, la police, comme en Belgique d'ailleurs, s'est fait rappeler à l'ordre par la Cour constitutionnelle encore en janvier dernier, pour dire que ça ne peut pas être un usage régulier parce qu'il y a des risques de surveillance ou de dérapage de l'utilisation normale des drones, mais que s'il y a une autorisation préalable pour des cas particuliers, ça va être possible pour les policiers de pouvoir utiliser les drones. Et même chose, on avait vu en Belgique pendant le pic de la pandémie, la Cour constitutionnelle ou l'équivalent qui avait rappelé aussi qu'on ne pouvait pas, on devait arrêter d'utiliser les drones pour une surveillance des individus parce qu'il y avait un risque que ça soit disproportionné par rapport à l'objectif visé, mais qu'on pouvait utiliser pour un objectif général de voir les mouvements de population pour dire qu'il n'y a pas d'attroupement. Donc, pour répondre à la question, c'est clair que ce qui s'en vient, c'est de voir en fait comment concilier un usage des drones, mais être sûr que le cadre réglementaire qui est prévu est toujours adapté, puis il va aussi bien permettre en fait les objectifs visés par ces utilisations qui ont été accrues pendant la pandémie dans différentes formules et qui risquent de laisser des traces en fait dans leur utilisation à venir une fois la pandémie terminée, si elle se termine un jour, mais une fois cet effet d'urgence, en fait, c'était sur ça qu'on jouait dans l'article, sur la dimension exceptionnelle qu'on est en cas d'urgence sanitaire ou d'urgence qui justifie des moyens exceptionnels. Une fois que cette urgence-là va être levée, elle est levée évidemment dans plusieurs endroits, jusqu'où maintenant on peut encore autoriser l'accès, l'utilisation de ces nouvelles technologies.
Et justement, parlant de contexte et d'urgence même, on est dans tout un contexte de sécurité présentement avec la crise en Ukraine. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact des nouvelles technologies sur ce qui se passe présentement et sur ce que tu appelles, toi, un nouvel écosystème?
Oui, avec plaisir. Déjà pour préciser, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, puis là, je vois déjà le temps qui file et je ne veux pas déraper. Je pense qu'on parle de l'intervention russe en Ukraine, il y a beaucoup à dire. Je n'irai pas sur l'usage des technologies qui sont faites par les Russes. Oui, je vais peut-être concentrer parce que comme la question que vous me posez fait allusion à une intervention que j'ai faite récemment à l'Université de Bishop sur justement où je parlais des nouveaux écosystèmes de défense et de voir un peu où se situe le Canada. En fait, ce que je peux dire pour les quelques minutes que j'ai pour répondre à la question, c'est déjà de voir que, si encore là, je garde le focus Union européenne, Europe, de voir l'intervention russe en Ukraine, même si déjà depuis janvier, il y avait quand même des signaux d'alerte qui avaient été mentionnés, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de super étonnement et le choc qui est confirmé par tous les représentants européens maintenant de dire que la guerre est revenue en Europe. Et ça, c'est un choc psychologique. Si on parle encore d'un imaginaire, il faut savoir que l'Union européenne a été créée justement pour éviter, après la Deuxième Guerre mondiale, permettre qu'à travers une intégration surtout économique, les pays ne pensent plus à se faire la guerre, puis de créer un espace de paix, bon, de sécurité. On peut aller sur toute la narrative de l'Union européenne, mais l'idée de paix était toujours au cœur du projet européen. Puis c'est clair que du projet européen, pardon, et dans les dernières décennies, on peut dire, pour travailler sur l'Union européenne depuis longtemps, il y avait toujours ce rapport-là où on se dit, les nouvelles générations qui n'ont jamais connu la guerre commencent même, donc il y a monté de l'euroscepticisme, beaucoup de critiques envers l'Europe de ne pas voir, et en fait, bref, pour revenir au point, maintenant, tout commence en disant, la guerre est revenue en Europe, donc il faut agir. Et il y avait déjà une tendance pour relancer plusieurs initiatives pour relancer la défense européenne. Mais là, la guerre en Ukraine juste confirme qu'on n'est plus dans une perspective de. Il y a un besoin imminent. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont multipliées déjà depuis le début de l'intervention pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour mieux préparer l'Union européenne à un contexte géopolitique qui est complètement transformé. Donc, quelques exemples parce que je vois l'heure, mais... il y avait déjà dans le narratif européen de parler d'une autonomie stratégique qui venait surtout des Français en disant, bon, les autres disaient, ouais, l'autonomie stratégique, ça sonne très français, tout ça. Alors que le discours, justement, en France, on disait toujours, oui, mais l'autonomie stratégique, ça peut toucher plusieurs secteurs, c'est aussi les domaines névralgiques. Et là, on a vu dans les dernières années, pas seulement depuis la guerre en Ukraine, mais que finalement, l'autonomie stratégique faisait son chemin. Mais là, avec l'intervention en Ukraine, c'est comme si c'est devenu évidemment un narratif accepté par tous les Européens en disant oui, l'autonomie stratégique. Et depuis au moins 2 ans, on discutait un nouveau livre blanc de la défense, mais qui n'a jamais existé en Europe, une stratégie, disons, on va le dire, une vision stratégique. Il y avait eu quelques tentatives. Chaque fois, on avait des documents assez généraux, des visions du monde, des menaces à identifier. Là, la guerre en Ukraine est venue fixer les choses, on peut dire. Donc, on a une vision qui est beaucoup plus affirmée, qui est dans le présent. Le document commence en disant « la guerre est revenue en Europe ». En fait, le document qui était discuté pendant 2 ans devait être soumis en février. Il a été, je ne sais pas s'il a été réécrit, mais on nous dit qu'il a été révisé à la lumière des événements et il a été adopté le 21 mars par le Conseil de l'Union européenne où les ministres siègent. Et là, on met clairement que ce document-là doit assurer la protection, donc en fait, renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. On parle de souveraineté européenne, on parle de réduire les dépendances stratégiques et avec une série d'initiatives, notamment pour stimuler l'innovation technologique à investir donc, dans des secteurs de pointe, mais aussi, donc on en parlait tout à l'heure, limiter les décalages avec les partenaires, mais surtout les dépendances stratégiques. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs, mais on peut parler de la souveraineté numérique, de la souveraineté technologique en général. Et donc, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais plusieurs initiatives qui ont été liées. Et dans ce document-là, évidemment, on veut renforcer les partenariats, dont avec l'OTAN, mais les partenariats bilatéraux avec les États-Unis, évidemment, mais aussi avec le Canada. Pour assurer, donc, oui, une défense européenne, mais une meilleure préparation, une meilleure coordination avec les alliés face à ce qui se déroule aux portes, évidemment, de l'Union européenne dans un contexte, évidemment, où l'Union européenne y voit, un lien parce qu'on le sait que l'origine, ça serait difficile si on en croit le narratif de Poutine de vraiment trouver le point de départ, mais on sait qu'en 2014, ce qui a augmenté les tensions, c'était quand même un accord de coopération politique et économique entre l'Union européenne et l'Ukraine et qui avait amené déjà les premières réactions. Donc, c'est sûr que pour l'Union européenne, il y a un lien direct avec ce qui se passe. Mais pour finaliser sur la question, effectivement, on a ajusté en fait toutes les initiatives pour assurer que la défense européenne elle soit concrète et efficace. Et surtout, cette boussole stratégique a tout un volet sur justement les technologies émergentes. On parle de l'espace, on parle justement des meilleures synergies civiles-militaires. Donc, on est plus au fait du jour avec un discours qui est dans l'affirmatif plus concret.
Puis, dernière question, si on peut parler un petit peu du Canada. Est-ce que tu peux nous parler des défis pour le Canada dans le domaine dont on parle aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce que la situation ici se compare à ce qui se passe en Europe? C'est quoi nos manques? C'est quoi notre avantage comparatif?
Oui, d'accord. Donc, en fait, peut-être je vais faire le lien avec ce que je viens de mentionner. Donc, en fait, dans cette boussole stratégique que l'Union européenne a fait de cette façon-là ou cette vision stratégique, on dit clairement renforcer les partenariats et le Canada est clairement mentionné. On sait que, justement, sur les technologies émergentes, il y a déjà un discours, évidemment, le partenariat stratégique Canada-Union européenne est déjà bien établi depuis longtemps. Et encore en juin 2021, le dernier sommet Canada-Union européenne, on avait discuté du renforcement, justement, du volet technologie et innovation. Donc, si vous me permettez, je vais répondre à la question de cet angle-là pour montrer comment le Canada, oui, se positionne, mais par rapport à mon domaine d'expertise qui est sa relation avec l'Union européenne. Donc, une volonté de renforcer, oui, déjà une coopération sur les chaînes de valeur. On parle des métaux critiques, des matières premières. Donc, on est dans cette logique-là aussi de contribuer à diminuer les dépendances stratégiques. Je pense que ça, c'est un point à mentionner. On parle d'une coopération aussi approfondie, coopération numérique. Ce qui est intéressant à mentionner, c'était parti d'initiative France-Canada, mais qui s'est élargie à ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, fièrement soutenu aussi par le Canada et dans ce cadre avec l'Union européenne de renforcer ce partenariat et de contribuer donc à l'encadrement d'une intelligence artificielle qu'on veut centrer sur l'humain, qu'on veut développer dans un cadre légal avec une bonne utilisation, une vision donc particulière d'une technologie qui a un potentiel, comme vous le savez, énorme, avec aussi des risques énormes. Donc, l'idée d'avoir un encadrement, donc une coopération qui prend forme. Également, coopération en termes de recherche-innovation pour le Canada, d'avoir accès au programme de recherche de développement de l'Union européenne, de s'intégrer dans des projets, y compris éventuellement peut-être Copernicus, domaine spatial, un intérêt pour le Canada aussi de s'associer plus étroitement dans des projets avec l'Union européenne sur des secteurs de pointe. Évidemment, je pense que, comme on l'a vu avec le document de l'Union européenne, il y a la perche qui est tendue aux partenaires, donc au Canada. Mais cette idée, je pense, pour le Canada de renforcer son partenariat aussi sur ces enjeux-là qu'on parle souvent peut-être de façon secondaire. Quand on parle de la coopération Canada-Union européenne, on sait qu'est-ce qui a beaucoup marqué l'imaginaire. Notre imaginaire canadien, c'est le fameux CETA, cet accord de libre-échange Canada-Union européenne qui est en vigueur progrès partiel en ce moment et dont on a beaucoup parlé, mais moins de ce volet innovation, recherche, technologie. Je pense que c'est aussi à avoir en tête.
Merci beaucoup, Chantal. C'était hyper intéressant. Puis, bien évidemment, on va suivre toutes les publications qui sont à venir. Puis, on y fera référence, évidemment, sur le site du Réseau d'analyse stratégique, où tu es chercheur également dans notre réseau. Alors, merci beaucoup.
Merci à vous.